Parler du doublage au cinéma, c'est parler d'une activité importante dans les œuvres audiovisuelles, puisque 80% du public préfère voir un film en entendant sa langue maternelle plutôt que la langue d'origine. Un domaine que l'IA investit comme la plupart des médias intellectuels et artistiques. Pour en parler, nous sommes allés chercher une personne qui fait un travail critique de qualité sur le doublage avec une pédagogie, une culture et on va dire une passion palpable. Nous recevons donc par satellite Hugo Amizé, alias Mr. Fox, youtubeur, Twitch et critique cinéma, spécialiste des procédés de doublage, prédateur naturel de certaines sociétés de doublage et qu'importe pour lui si vous dites doubleur ou comédien de doublage.
CPU, carré et petit utile.
Hugo, merci de nous rejoindre.
Ah ben, un plaisir, merci beaucoup pour cette présentation élogieuse.
Quel est ton meilleur souvenir d'enfance sur un doublage ?
Souvenir d'enfance sur un doublage, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de films enfants, bah tous, hein, que j'ai vus en VF. Donc forcément, je pense à mes films préférés. Souvent, j'ai bien aimé la VF. C'est assez rare que j'aime le film, mais pas la VF. Moi, je vais plutôt te donner un souvenir d'adolescent, qui est l'animé japonais GTO, qui passait sur Canal+.
Ouais.
Qui était une très très chouette VF. J'avais pu en discuter avec certaines personnes qui avaient travaillé dessus, qui m'avaient confirmé que, en ce temps, Canal+ laissait beaucoup de liberté aux adaptateurs et aux comédiens. En termes de ton, en termes de registre, etc., ça s'entendait, ça se sentait. Et quand on était adolescent, entendre un personnage d'animé qui dit « Sérieux, tu te fous de ma gueule ou quoi ?» Il y a un côté un peu transgressif, un peu rigolo. C'est entendre le comédien qui fait Onizuka, qui est Benoît Dupac, l'entendre parler de son métier et en même temps l'entendre jouer comme un fou, qui m'a donné envie de l'interviewer dans un premier temps et dans un deuxième temps de mettre cette interview dans une émission sur le doublage. À la base, c'était un pilote pour la chaîne No Life qui est devenu un format régulier de ma chaîne YouTube.
Et c'est quoi qui t'a... où tu t'es dit, allez, je vais en parler en public, je vais faire un travail de pédagogie et de critique là-dessus. T'étais le mec, chaque fois, qui arrêtait pas d'en parler aux copains, aux copines, etc. Il y en a au bout d'un moment qui dit, mais parle-en aux autres.
Alors non, c'est pas tellement ça qui m'a donné envie. Ce qui m'a donné envie, c'est plutôt les anti-VF. C'est-à-dire que pour moi, c'est le doublage, ça fait partie de ma sphère culturelle au même titre que le film, les séries, tout simplement les émissions de télévision. Et j'étais très triste d'entendre des gens que j'estimais en parallèle pour leur travail dire « Ouais, mais non, la VF quand même, c'est une honte, c'est catastrophique, ça devrait pas exister, c'est chier sur l'art, c'est repeindre la Joconde. » Et moi, j'étais en mode « Non, les gars, c'est quand même un peu plus fin que ça. » Je me suis rendu compte que, aussi qu'il y avait une grande méconnaissance du métier, de comment ça fonctionnait, que jusqu'à maintenant, qu'il y avait pas mal de gens qui pensaient que c'était des comédiens qui improvisaient devant un micro. Et donc, je me suis dit, c'est bien dans un premier temps d'expliquer comment ça marche et dans un deuxième temps, aussi pour rendre crédibles mes propos, de ne pas dire toutes les VF sont bien, parce que c'est pas le cas, il y a des VF qui sont complètement ratées, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout rejeter. Et je me suis confronté à des gens, notamment toute une génération traumatisée par le Club Dorothée et CVF qui n'étaient pas toujours très respectueuses de la version originale. Et du coup, ça a été intéressant de leur expliquer que ça, c'était une époque qui a changé, qu'on faisait plus comme ça, qu'on n'opérait plus de la même manière, que c'était plus les mêmes personnes aux commandes. Et tout ça... mis globalement dans un grand sac, ça donne mon travail qui est un mélange de vulgarisation, d'analyse, de critique et tout simplement je dirais pas de travail moral, mais une volonté de réhabilitation de la pratique du doublage, y compris quand on a une vision de l'œuvre audiovisuelle très absolue. C'est-à-dire, le réalisateur a pensé son œuvre. Il faut la retoucher le moins possible. Il faut qu'elle reste pure. Et ces gens-là, il faut leur expliquer parfois que pour rester pur, le doublage, c'est parfois plus malin et plus respectueux, plus proche de la vision du réalisateur que le sous-titrage.
Laisse-moi deviner, t'en as eu marre des fansubs de dessins animés japonais de très mauvaise qualité ? Bon, on va expliquer. Le fansub, c'est une œuvre bénévole de sous-titrage qui est souvent liée au piratage d'un contenu sans sous-titres disponibles.
Non, parce que les fansubs, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans le partage de la culture. Indirectement, c'est aussi eux qui ont permis de tirer la sonnette d'alarme à une époque où les boîtes de doublage se disaient « Bon, bah de toute manière, les gens ils comprennent pas le japonais, on peut plus ou moins faire ce qu'on veut. » Et c'est à partir des fansubs qu'on a commencé à dire « Ah oui, non, on fait pas tout à fait ce qu'on veut. » Je pense que le fansub a eu un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité du doublage, la nivellation positive. En soi, les fautes de goût qu'on imputait au doublage, les sous-titres fluo à rose, à fond vert, etc., c'est juste un problème de style, mais ça a quand même permis de rendre accessible, même de manière primaire, des œuvres culturelles étrangères.
Comment se produit une traduction d'une œuvre audiovisuelle ou vidéoludique ? Quelle est la chaîne de production traditionnelle ?
Traditionnellement, pour tout ce qui est audiovisuel, le jeu vidéo c'est un petit peu différent, mais j'en parle après. De l'audiovisuel, on commence avec le texte d'origine. Si c'est de l'anglais, on le confie directement à l'adaptateur ou l'adaptatrice. Mais parfois, on passe par une traduction intermédiaire. Si c'est du japonais ou une langue un peu exotique, on donne une traduction sommaire à l'adaptateur ou l'adaptatrice. À partir de ce moment-là, ce travail-là d'adaptation, ça va être d'écrire des dialogues qui sonnent bien, qui sonnent juste, qui sonnent oral, qui rentrent dans les bouches, ce qu'on appelle les labiales, essayer de mettre ce qu'on appelle les plosives, les P, les B, tous ces moments où les lèvres du comédien à l'écran vont être fermées, il faut essayer de faire en sorte que ça colle. On est très strict là-dessus en France, on est très rigoureux. Une fois ce travail-là fait, on va confier ça au directeur artistique. Le directeur artistique, il va faire passer un casting auprès de comédiens qu'il connaît. C'est pas un casting ouvert au public, c'est vraiment du bouche à oreille aussi pour des questions de délai. Souvent, on n'a pas le temps de passer des jours et des semaines à faire un casting. Donc, on fait passer des essais à des comédiens, parfois sur une bande-annonce, en disant bah, « essaye de jouer ce comédien ». Et puis, on montre au client. Donc, le client, c'est le diffuseur. Si c'est au cinéma, bah, ça va être le distributeur ciné ou VOD ou télé. Le client va faire son choix en accord, en collaboration avec le directeur ou la directrice artistique. Et puis ensuite, les comédiens sont appelés à la barre, en studio, et on va enregistrer leur travail. Selon le budget, ils vont avoir plus ou moins de temps pour travailler. Et puis une fois que ça c'est fait, le doublage, enfin les enregistrements sont montés pour recaler avec les images. Et puis ensuite, elles sont mixées. Ça peut être fait directement en France, mais ça arrive aussi qu'on rapatrie les rushs aux États-Unis ou dans le pays d'origine, ce qui n'est pas toujours la meilleure des idées. Et puis ensuite, le film sort, le film, la série, etc., est diffusé tout simplement. Les jeux vidéo, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup de choses à doubler, il y a beaucoup de phrases de PNJ, etc. C'est une masse de travail assez conséquente. Et là, on n'a pas la question de synchronisation qui se pose. Il faut juste que ça rentre dans le timing, parce qu'on ne peut pas changer le code du jeu pour que l'extrait de 8 secondes soit étiré à 10. Donc, il faut que le comédien, en termes de timing, on lui montre juste la sinusoïde de la réplique. Et il faut qu'il tienne dans les 8 secondes, par exemple, de la réplique originale. Et surtout, pour le jeu vidéo, les comédiens ont rarement, ça change de plus en plus avec le temps, mais les comédiens et les comédiennes ont rarement des images du jeu. Mmh. Donc, ils doivent travailler totalement sans contexte, avec juste le fichier son de la réplique d'origine. Et parfois, bah, on n'a pas le contexte, on tape un peu à côté. Et quand on regarde le jeu final, on se dit, ouais, le comédien, il est complètement à côté, mais c'est aussi parce qu'il n'avait pas d'infos. Alors que sur l'audiovisuel classique, on double avec une image en face de soi, une bande rythmo, une bande rythmique, avec le texte écrit étiré, plus ou moins long, plus ou moins large pour coller avec la prosodie du comédien original. Et du coup, on s'assure d'avoir le contexte, on s'assure d'avoir l'intention de jeu original et on arrive à peut-être travailler de manière plus précise que sur du jeu vidéo.
J'ai eu une chance extraordinaire, c'était d'avoir vu Ghost in the Shell, l'AVF, en avant-première avec Christophe Gans et d'avoir pas mal discuté avec lui dans une interview. On est en 98-99, si je me souviens bien. Le film est sorti 3 ans plus tard en France par rapport au Japon. Il y a eu une première traduction qui avait été mandatée par Manga Vidéo qui, en fait, ben, n'avait pas plu à personne. Est-ce que ça arrive régulièrement, en fait, que finalement, il y a un contrôle qualité du livrable avec tous les mixages, etc. Et finalement, bah non, tant pis, c'est mauvais, on reprend à zéro, ou c'est vraiment exceptionnel.
Non, ça arrive jamais parce que il y a quand même des contrôles au fur et à mesure de la production. Comme je l'ai dit, le client, il surveille le casting, il surveille les enregistrements en cours. Ça arrive quand il y a eu des erreurs, que le client demande des retakes, qu'on appelle des retakes, c'est-à-dire des réenregistrements de petites parties de répliques. Je me souviens, j'étais sur le doublage du film Promare, du film d'animation japonais Promare, et pendant une partie de l'enregistrement, les comédiens ont dit, parce que le distributeur leur avait pas donné l'info, ils disaient Promare. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, ils ont envoyé les rushs au client. Le client a dit, alors c'est bien, par contre, c'est Promare. Donc, il a fallu réenregistrer un certain nombre de répliques. Parce que, bah oui, mais ça, c'est une mauvaise communication entre le client et le studio de doublage. Donc, ça, en l'occurrence, c'est pas de la faute des comédiens, du studio, etc. C'est aussi un manque de communication qui est parfois aussi involontaire. J'ai fait, il y a pas très longtemps, une vidéo sur Pokémon. Et il y a eu un petit moment où, visiblement, l'équipe avait pas toutes les informations. Un des Pokémon qui s'appelle Paras a été appelé TBA, donc vraiment littéralement un placeholder. C'est comme si je lisais un article de journal et que je disais Lorem Ipsum.
To be announced.
C'est ça, to be announced. C'est ça. Ah, regardez ce Pokémon, information à venir. Et ben, c'est lui qui... Voilà. Et voilà, ça c'est aussi des questions de timing, des petits problèmes ponctuels. Et ça arrive... que aussi il y ait des retakes au moment de l'édition DVD. Ça, c'est assez rare, mais pareil, j'ai fait une vidéo sur Fullmetal Alchemist qui était justement lui aussi diffusé sur Canal+. Canal+, avait laissé les comédiens interpréter dans le registre qui sentait le mieux et l'adaptateur écrire le texte dans un registre plus familier. Ce qui faisait que ben Edward, le héros, pouvait dire tu vas te le prendre mon Full Metal point dans ta gueule, et l'éditeur DVD, Dybex, ils étaient en mode non, ça nous gêne, donc on va remplacer ça, on va réenregistrer ça pour avoir Full Metal point dans ta face. Et puis dans un autre registre, certains personnages de l'animé avaient des prothèses en métal qui s'appelaient des mécagreffes. C'était la première proposition de l'adaptateur. Sauf qu'entre-temps, le manga papier était sorti. Dans le manga papier, ils avaient traduit ça en automail. Donc, l'éditeur DVD a demandé à ce que toutes les occurrences à mécagreffes soient réenregistrées pour avoir automail, parce que c'était la traduction du manga. Donc, il s'agissait d'harmoniser toute la licence, toute la traduction des termes de la licence. Il y a quand même des situations où on refait des doublages, non pas parce que on se rend compte avant la sortie que ça nous convient pas du tout, mais après la sortie, parce qu'on veut faire une remise à zéro ou parce qu'on a envie de réenregistrer pour harmoniser toutes les voix d'une licence, justement. Et aussi parce que toute la série n'a pas été doublée à une époque et que c'était il y a longtemps. Il y a des séries comme One Piece, il y a eu les 100 premiers épisodes qui ont été doublés en France par la Sophie à une époque où c'était diffusé sur le câble. Et puis quand un éditeur a repris toute la licence en disant bon, voilà, là c'était plus simple de tout reprendre depuis le début parce qu'un certain nombre d'années s'étaient écoulées. Donc on a repris à zéro en Belgique et puis c'est la même équipe depuis 15 ans. Maintenant, 20 ans, je sais plus. Donc voilà, ça arrive.
Y a-t-il une différence dans la traduction entre le sous-titrage et le doublage ? On l'a un petit peu abordé rapidement, mais...
Je vais faire vite. Oui, il y a une énorme différence entre doublage et sous-titrage en termes de traduction d'adaptation. Comme je l'ai dit, quand on fait du texte de doublage, il faut que ça sonne oral et il faut que ça colle avec l'élève des personnages. Alors que quand c'est du sous-titrage, c'est un autre problème qui se pose, c'est le problème de la concision. C'est-à-dire qu'on a une limite de caractère par ligne de sous-titre, une ligne de sous-titre qui doit quand même rester affichée à l'écran un certain temps minimum. Donc c'est un autre exercice mental, c'est un autre exercice d'écriture avec des règles totalement différentes. Et il y a des adaptateurs qui font jamais de sous-titrage et des sous-titreurs qui font jamais d'adaptation doublage parce que c'est vraiment deux manières d'écrire très différentes. Un sous-titre peut être plus écrit et moins oral. Il peut aussi être plus succinct dans les informations. Il peut transmettre l'essentiel. Et c'est pour ça que je dis souvent que le doublage peut permettre d'être plus proche de la VO, c'est parce que un sous-titre ne transmet pas d'émotion un sous-titre ne va pas indiquer si le personnage est ému ou en colère ou quoi que ce soit. Et autant pour des films occidentaux, on s'en rend compte assez facilement parce qu'on a des codes d'acting partagés, on va dire, j'allais dire tous les pays européens et l'Amérique du Nord. Mais dès qu'on est sur des films chinois, indiens, asiatiques, qui ont des codes de jeu qui peuvent être différents des nôtres, ça peut être d'une grande aide d'avoir une adaptation et des comédiens qui interprètent peut-être avec plus de justesse et qui nous permettent de saisir plus précisément l'énergie de la version originale et du film.
Je renverrai nos audis spectateurs vers la page web de notre émission pour la technologie qu'il y a derrière la bande Rythmo, parce que sinon on va en parler pendant des heures, bien évidemment. Mais j'ai cru comprendre que c'était une technologie qui était plutôt exclusivement française.
Alors, c'est une invention française, ça c'est une certitude. Même en Europe, c'est pas du tout la norme. Et j'ai eu l'occasion de discuter il n'y a pas très longtemps avec un adaptateur italien qui nous expliquait que à cause de Netflix qui a des studios partout en Europe et qui demande une harmonisation un petit peu de la méthode de travail, il y a certains comédiens italiens à qui on demande d'utiliser la bande Rythmo aujourd'hui, c'est depuis à peine quelques années, hein. Et il y a des comédiens italiens qui sont habitués à avoir leur texte dans les mains qui disent « bah non ». Non, non, on n'est pas d'accord. Tu gardes ton outil de merde. Moi, je veux le texte dans les mains pour pouvoir l'annoter, pour pouvoir le surligner, pour pouvoir m'y référer directement sans avoir besoin du technicien. Ils ont des arguments qui s'entendent. Donc, c'est effectivement quelque chose de très français, plus précisément francophone, puisque la Belgique l'a adopté, le Luxembourg aussi, et puis dans les pays du Maghreb, je crois qu'on utilise aussi la bande Rythmo. Mais par contre, dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, c'est texte en main, et à la volée. C'est pour ça que je dis qu'on est très précis et on est très exigeant sur la synchro en France, aussi parce qu'on a habitué le public à de la précision grâce à la bande Rythmo.
Y a-t-il eu, à ton sens, alors je vais jouer un petit peu peut-être sur une petite fibre nostalgique, mais y a-t-il eu un âge d'or du doublage en France ? Parce que moi, personnellement, quand j'écoute des doublages des films des années 60 et plus tôt, le son est nettement moins clair qu'en VO. Et dans les années 80, j'ai souvent l'impression qu'ils magnifient le film par la réécriture des dialogues et la qualité des comédiens.
C'est une question délicate. Moi, je pense pas qu'il y ait un âge d'or. Déjà, c'est compliqué parce que âge d'or, chaque génération a son âge d'or, j'ai l'impression. Plus on demande à des personnes âgées, et plus elles vont dire que l'âge d'or, c'est les années où ils étaient gamins, ados, et que ça s'est dégradé avec le temps. Dans le documentaire de Lucas Toll, On m'a volé ma VF, il y a un comédien qui explique que pour lui, l'âge d'or, c'est les années 60-70. Je comprends qu'on trouve les doublages des années 80-90 plus réussis, plus vivants, effectivement, avec ce truc des dialogues qui magnifient le film, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, non pas parce qu'on n'a plus le temps ou parce que on n'a plus envie ou parce que on a plus talent, mais c'est parce que le goût du public, les exigences du public a changé et surtout parce qu'aujourd'hui on a accès à la VO en fait. Dans les années 80-90, les adaptateurs pouvaient se dire bah de toute manière le public ne verra jamais la VO. Parce que pour voir une VO au cinéma, il fallait avoir une pellicule VO et ça demandait un travail et un investissement que tous les studios ne faisaient pas. Il y a des films qui sortaient jamais en VO. Ou alors, il y avait trois pellicules qui faisaient le tour de Paris et puis c'est tout. Il y avait des cassettes vidéo avec une piste unique, une piste son unique qui était généralement le français. Il y a quelques cassettes VOST, mais pareil, c'était pas courant du tout.
Ouais, la technologie pour l'avoir, il fallait avoir le magnétoscope et le téléviseur spécialisé, donc c'était...
C'est ça. Ouais. Et puis la télévision, bah, c'était la même chose, il n'y avait pas de choix de la langue, donc on regardait que la piste diffusée, et généralement c'était la VF. Parfois sur Arte, il y avait des films en version originale sous-titrée, mais sinon c'était globalement des films en VF.
Canal+ faisait des diffusions VOST et VF.
Effectivement, mais Canal+, c'était genre deux diffusions sur les 10 ou les 5, je sais plus. Mais sur les 5 diffusions du film, il y en avait genre une ou deux en VO et c'était toujours à des heures tardives. Donc majoritairement, c'était la VF qui était proposée au public. Alors qu'aujourd'hui, eh ben, les plateformes, les DVD, les Blu-ray proposent le choix de la langue. Le fait d'avoir des DCP numériques au cinéma fait que ben, un cinéma peut demander au distributeur de diffuser une VOST et ça demande juste une clé d'accès, c'est très facile à mettre en place. Et puis même à la télévision, c'est pas forcément une info très connue, mais quand vous regardez un film à la télé, vous pouvez changer la langue du film puisque le signal numérique de la TNT qui est en place depuis plus de 20 ans maintenant, eh ben, il permet de changer de piste sonore, ce qui n'était pas le cas à l'époque des signaux hertziens, quoi.
Pour être exact, on pouvait, il y avait une techno qui s'appelait le NICAM, mais c'était ultra limité.
Ok, d'accord. Eh ben voilà, j'apprends quelque chose. Moi, je connaissais que le Showview qui permettait de voir du sous-titre, mais c'est tout.
Bah, NICAM, tu avais trois pistes son de stéréo, une qui était cachée, qui était plus technique. Et ouais. De toute façon, il fallait aussi que tu actives le sous-titrage anti-op, enfin, télétexte.
Ok, je vois. Et là où je veux en venir avec tout ça, tout ce développement interminable, c'est que maintenant que le public a accès à la VO, il va de moins en moins accepter qu'on prenne des libertés avec le texte. Et si on remplace une référence par une autre référence, eh ben autant dans les années 80-90 c'était très apprécié par le public, autant aujourd'hui on va dire ouais c'est n'importe quoi, ça va se plaindre sur Twitter. L'exemple que je cite tout le temps, c'est Retour vers le futur, qui a une VF quasi unanimement appréciée. Il n'empêche qu'on a remplacé, pour des raisons de synchro et un peu plus spécifiques, on a traduit 1,21 gigawatt en 2,21 gigawatt, enfin même 1,21 gigawatt en 2,21 gigawatt, ce qui n'existe pas, les gigawatts. C'était quelque chose, à l'époque, ça n'a choqué personne, et même 2,21 gigawatt, c'est devenu culte. Si aujourd'hui Retour vers le futur sortait, il y aurait des gens pour râler sur Twitter en disant pourquoi ils ont remplacé 1,21 gigawatt par 2,21 gigawatt. En plus, ça ne veut rien dire gigawatt, ça n'existe pas. Voici un debunk, voici un article scientifique. Il y aurait le Huffington Post qui ferait un petit article. C'est chiant et personne n'a envie de prendre ce risque-là. Donc, on demande aux adaptateurs et aux adaptatrices plus de rigueur et d'être plus fidèles à la version originale, ce qui parfois les énerve et leur facilite pas le travail parce que parfois on leur demande de calquer, de faire du mot à mot et c'est pas forcément le film ou la série n'en ressort pas grandi. Je me permettrais de rajouter un tout petit truc. Parfois les comédiens et les gens du métier vont dire bah, dans les années 80 on avait plus le temps de travailler, notamment Retour vers le futur, je crois qu'ils avaient eu 2 ou 3 mois pour bosser sur la VF. Aujourd'hui une VF de film, il faut que ce soit bouclé en 2 à 3 semaines quand on a bien le temps, parce que pour Netflix c'est plus même une semaine. Alors oui, ils avaient plus de temps, mais d'un autre côté les films sortaient 3 mois plus tard. 3 mois, 6 mois, 9 mois, même parfois un an, plus d'un an. Il y avait un décalage de sortie. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure de la mondialisation, j'avais posé la question un jour en conférence, j'avais demandé au public, si on vous demandait d'attendre 3 mois supplémentaires la sortie d'un film, mais en échange, vous êtes sûr d'avoir une VF impeccable, est-ce que vous accepteriez? Eh ben, j'avais pourtant un public d'amateurs de doublage, ben, ils ont tous répondu non. Non, l'heure n'est plus aux 3 mois de décalage. Déjà que les gens râlent sur la chronologie des médias, leur demander en plus 3 mois de décalage entre la sortie US et la sortie française, c'est un peu fort du café.
Y a-t-il eu un type de doublage qui t'horripile d'un rire nerveux? Les sitcoms brésiliens ou les pornos des années 70? Tu es libre de répondre. Hein. Nous n'avons pas de publicité, donc pas de démonétisation possible et en cas de contestation, voire l'argom. Hein.
Non, moi j'aime beaucoup le doublage des films porno, pas seulement des années 70. J'ai même fait une vidéo dessus, qui est disponible sur des sites pour adultes. Mais j'ai vraiment fait une vidéo, je voulais mettre balle d'extrait, je voulais vraiment ne pas me poser la question. Du coup, j'ai fait une vidéo avec plein d'extraits pornographiques et du coup, je l'ai mis sur des sites pornographiques. Et c'est un film qui s'appelle « Deux sœurs à enculer », le titre est prodigieux. Et ils ont inventé une intrigue à base de voleurs de tableaux qui s'appelle « Fantofesse ». C'est catastrophiquement génial. Et ouais, parce qu'il y a un côté un peu je m'en foutiste. Il y avait évidemment quasiment pas de budget pour le doublage de films porno. Donc, parfois, il n'y avait pas de texte et les comédiens devaient improviser. C'était même assez fréquent qu'il y ait zéro bande rythmo. Et pourtant, si on tend un peu l'oreille, évidemment, c'est pas sur leur page Wikipédia, mais si on tend un peu l'oreille, on peut voir, ou plutôt entendre, des comédiens de renom. Je sais que Jean Roche, par exemple, qui a fait Lando Calrissian dans les Star Wars, il a commencé en faisant du porno. C'est un des rares qui l'assume. Il y a eu un reportage où on le voit. dont je diffuse un extrait dans ma vidéo. Donc non, le doublage des pornos, moi je trouve ça passionnant et fascinant. Je regrette même à titre personnel qu'il n'y en ait plus aujourd'hui. Maintenant, les sitcoms brésiliens, j'en regarde pas, donc je pourrais pas m'exprimer sur le sujet. Pour les sitcoms en général, je trouve aussi que c'est un doublage très intéressant. J'ai pu discuter avec des gens qui font les Feux de l'amour et ils expliquent que c'est pas le même travail, bizarrement, parce qu'il faut en faire vraiment des caisses et aussi c'est pas mixé de la même manière. Et ça, c'est la petite anecdote que je glisse aussi parce que c'est une discussion qui revient aujourd'hui avec Netflix, qui en a parlé, qui l'a explicité il n'y a pas très longtemps. Mais les premières sitcoms qui ont été diffusées en France, les clients, les diffuseurs, c'est-à-dire la chaîne de télé, a demandé explicitement à ce que les voix soient surmixées par rapport à un film, qu'on mette les voix plus fortes, beaucoup plus fortes, et que les comédiens en fassent plus, parce que, je cite pas in extenso, mais c'était grosso modo l'idée, il faut que la ménagère de moins de 50 ans puisse suivre le feuilleton tout en faisant son repassage, tout en faisant sa vaisselle, tout en faisant les tâches ménagères. Donc, il faut que ce soit facile à suivre, même si on n'a qu'une oreille sur deux de disponible. Et donc, c'est pour ça que les VF de sitcom sonnent si particuliers, parce qu'il faut qu'on puisse les suivre de loin. Et donc, on les surmixe et on les surjoue.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Hugo Amizé alias Mr. Fox, critique sur les doublages audiovisuels, pour parler de l'évolution du secteur avec l'arrivée de l'IA. Mr. Fox, Hugo, combien coûte la chaîne complète de localisation des traductions au doublage et le sous-titrage ?
C'est impossible de répondre à cette question de manière définitive, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà, ça dépend de quel produit il est question, si c'est un film, si c'est une série, ça va pas coûter la même chose, ça dépend de la longueur du truc, ça dépend aussi si c'est verbeux. Il y a des films de 3 heures où il est prononcé quasiment aucun dialogue, ça va pas coûter la même chose à produire qu'un court-métrage où tout le monde parle tout le temps et où il y a 1000 trucs à doubler. Ça dépend aussi si il y a beaucoup de figurants qui parlent en arrière-plan, ce qu'on appelle les ambiances. Ça dépend aussi du temps qu'on donne au studio pour travailler. Pour le même film, un éditeur DVD de seconde zone va laisser 3 jours de boulot, là où un grand studio, pour un tentpole hollywoodien, va donner 3 semaines, 1 mois, peut-être 1 mois et demi. Et donc forcément, chaque journée de studio, c'est des gens à payer, donc ça augmente le budget. Ça dépend aussi s'il va y avoir des retakes, ça dépend aussi dans quelles conditions le truc va être diffusé derrière. Donc ça dépend aussi si ça va être doublé en France, en Belgique, au Luxembourg. Les conventions collectives des comédiens et des techniciens sont pas tout à fait les mêmes. Maintenant, il y a carrément des VF d'animés et ça a beaucoup fait parler. Il y a des VF qui sont carrément enregistrés à Barcelone, au Maghreb, ou même, c'était le cas de Beyblade en Israël. Donc, il y a beaucoup trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour donner même une échelle large, en fait. Je peux même pas te dire entre 1000 et 100 000, parce que je suis sûr qu'il y a des distributeurs facétieux qui arrivent à doubler pour moins de 1000 euros. Donc, donc, en vrai, c'est compliqué. Non, mais tu vois, typiquement, c'est con, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai fait doubler par Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey, un deepfake de Shining, un SFX artiste américain, qui a remplacé le visage de Jack Nicholson par celui de Jim Carrey, en gardant tout le reste. Et moi, je me suis dit, le trucage est très beau, mais En France, on connaît trop la voix de Jim Carrey, ce sera bien de faire réenregistrer Emmanuel Curtil. On a quelqu'un, Hervé Grulle, que je remercie, qui nous a prêté gracieusement son studio pour l'enregistrement. Donc, wow. On n'a pas payé d'enregistrement. On n'a pas payé de mixage non plus, parce que c'est Mike Le Cicero qui s'en est occupé. J'ai pas payé d'adaptateur parce qu'on a repris le texte d'origine et j'ai simplement un ami que je remercie là aussi qui a refait une bande rythmo pour cette petite séquence. Donc, tout ça, ça ne m'a rien coûté. Et le comédien, je voulais le payer au tarif syndical normal. Ça a coûté, pour le comédien, je crois, autour de 300 €, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, en ne payant quasiment aucun des services et en payant juste le comédien pour une séquence de 5 minutes, ça faisait 300 €. Donc imagine si je payais tout le monde, si je payais la location du studio. Mais d'un côté, imagine aussi qu'à la place d'Emmanuel Curtil, j'ai appelé un comédien et que je le sous-paye parce qu'il n'est pas au courant des conventions collectives. Eh ben en fait, ça varie beaucoup trop, quoi. Donc voilà, je ne peux pas répondre à ta question. Je suis désolé, j'ai passé 3 minutes à répondre que je ne pouvais pas répondre. Je suis désolé.
Mais je fais mon rôle aussi de poser des questions en sachant pertinemment, etc. Et de voir justement si peut-être il y a un chiffre qui va sortir. Et c'est une discussion entre guillemets ouverte.
J'avais fait un plateau radio sur Europe 1, je crois. Il m'avait pris à distance par téléphone. Et l'animateur, je ne me rappelle plus son nom, il m'avait dit « Je crois que ça coûte tant ». Et il sortait son chiffre de son cul. Et moi, j'étais en mode, bah, si vous le dites, je pouvais pas confirmer du tout, ni confirmer, ni infirmer. Du coup, j'étais en mode, bah, vous avez votre source, ok, d'accord, très bien. Mais je comprends pas d'où sortait ce chiffre. En radio, en télé, allez, c'est pas le cas ici, je t'en remercie. Mais en radio, en télé, on n'a pas le droit de dire je ne sais pas. Donc, il fallait sortir un chiffre. Là, j'ai toute la latitude nécessaire pour dire je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Et ça bouge trop d'une production à une autre et selon les conditions pour donner un chiffre précis.
Entre 2015 et 2022, le secteur a eu un énorme besoin de traduction et s'est retrouvé avec une pénurie de traducteurs et de doubleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, c'est pas tant qu'il y a eu une pénurie de traducteurs, parce que, mine de rien, il y a quand même énormément de gens qui travaillent dans ce secteur. Par contre, Netflix avait la flemme. C'est plutôt qu'ils ont fait appel à des robots et à des traducteurs, des traductions un peu automatisées, qui font qu'il y a eu des traductions de mauvaise qualité. Et ça, effectivement, c'est plus, d'après moi, des soucis d'économie de bout de chandelle de la part de Netflix que d'un vrai manque dans le secteur, parce que des comédiens, il y en a plein qui ont envie de travailler, des adaptateurs et des traducteurs, il y en a plein qui seront ravis de travailler. Simplement, aujourd'hui, il existe des conventions collectives qui font que tu peux pas payer n'importe qui, n'importe comment. Et je pense que cette pénurie qu'invoque Netflix, c'est plutôt l'envie de ne pas payer en bonne et due forme toutes les productions Netflix, surtout qu'ils en produisaient à l'appel. Je pense que autant ils se sont payés des services de bons adaptateurs et de bons comédiens sur les gros noms à la Squid Game, à la Stranger Things et compagnie, autant quand c'était des productions locales, ce qu'on appelle le fonds de catalogue qui n'est là que pour enrichir la base de données. Eh ben oui, dans ce cas-là, j'imagine qu'on n'avait pas envie forcément de payer un doublage en bonne et due forme. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Amazon Prime, qui avait doublé deux films argentins, ouais, qui étaient vraiment des produits de catalogue, qui ont été doublés avec vraiment une voix de synthèse, mais pas les belles voix de synthèse qu'on fait aujourd'hui, hein, des voix de synthèse, des text-to-speech pourris. Clairement, il y avait des adaptateurs dispo pour faire une belle VF, mais Amazon ne voulait pas payer une belle VF à ce film. Et donc, du coup, bon, bah, on fait une traduction automatique Google et un text-to-speech, et puis merci, merci, bonsoir.
Amazon Prime s'en est excusé, c'était défaussé en disant que c'était une erreur qui venait du distributeur.
Alors, oui, effectivement, mais parce que Amazon Prime, contrairement à Netflix, ne fait pas forcément toute la distribution, et parce que ça, c'est un fait, mais du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand on est un distributeur et qu'on veut vendre ses films à une plateforme ou un autre distributeur ou quoi que ce soit, un film en VF se revend plus cher qu'un film sans VF. Donc je pense que là, le distributeur, il s'est dit, bon, bah, je vais faire une VF à 0 €, histoire de dire qu'elle existe. Mais Le problème, c'est que Amazon Prime ne faisait pas de contrôle qualité. Il est là le souci. Mmh. C'est bien beau de dire bah le distributeur a fait n'importe quoi, mais Amazon Prime a le devoir en tant que plateforme de ne pas accepter n'importe quoi et de vérifier un minimum. Sauf qu'à ce moment-là, ils achetaient tout et n'importe quoi sans vraiment regarder ce qu'ils achetaient. Donc quelque part, ce n'est que justice de se faire engueuler et taper sur les doigts derrière, quoi. Mmh.
Maintenant, avec l'arrivée de l'IA générative, est-ce que ça a vraiment massacré les tarifs pour les traducteurs ?
Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Il faut savoir que dans le monde de la traduction audiovisuelle, que ce soit le sous-titrage et le doublage, il y a des conventions collectives, il y a des tarifs syndicaux et il y a des grilles tarifaires à respecter. Il y a, j'observe en tout cas, une solidarité dans le métier qui fait que la majorité des traducteurs et adaptateurs vont simplement refuser si on leur propose de payer en dessous des tarifs normaux. Donc du coup, cette solidarité a fait que les traducteurs et adaptateurs n'ont pas baissé leurs tarifs. Mais du coup, les plateformes ont de moins en moins de scrupules à faire appel à des outils automatisés. Ce qui fait que c'est un peu con comme réponse, mais non, les traducteurs et adaptateurs ne sont pas moins bien payés pour leur travail. Par contre, ils travaillent beaucoup moins. Et je vois de plus en plus de gens qui avaient fait de la traduction leur activité principale, qui me disent, j'ai repris mon activité de prof, j'ai repris un taf alimentaire d'hôtesse de caisse, etc. Parce que, on met un point d'honneur à conserver la grille tarifaire en vigueur. Mais du coup, on nous commande moins de trucs et du coup, on se retrouve à devoir reprendre un taf alimentaire.
Mais donc, dans ce cas-là, quand on voit au générique post-édition à la place de traduction, c'est une manière aussi de jouer sur le poste financier, quoi. Et de payer moins cher.
C'est même de ne plus payer. C'est-à-dire que les plateformes font appel à des outils. J'imagine qu'ils achètent une licence à l'année, comme ça se fait beaucoup dans l'intelligence artificielle générative. Pour eux, c'est pas un coût. Ils le considèrent comme du zéro, vu que ça fait partie des abonnements à l'année. Un peu comme les abonnés Netflix, d'ailleurs, qui ont l'impression que leur film coûte zéro en oubliant qu'ils payent un abonnement mensuel, quoi. C'est plus une dépense. En tout cas, beaucoup de distributeurs veulent supprimer cette dépense-là en se disant, et ça pour moi c'est l'erreur principale que fait le monde de la distribution et notamment les plateformes de VOD, c'est de croire que le public VF ou même le public VOST est con et peut avaler n'importe quoi. Et ça, c'est on ne peut plus faux. C'est pas parce que les spectateurs regardent des films en VF qu'ils ne sont pas exigeants. Et quand il y a une VF ratée, ça se sait, ça se dit, ça se plaint et parfois il y a des excuses, ça peut être des excuses et puis ça peut être aussi tout simplement un réenregistrement du doublage parce que on a merdé et c'était le cas du film Dumbbells sur Netflix qui avait beaucoup fait parler de lui que Netflix l'avait confié à une bande d'amateurs qui faisait ça pour le fun et qui pensait pas faire un doublage pro. Et les gens ont gueulé, alors que c'est vraiment pas un bon film, c'est vraiment pas un film sur lequel le public avait des attentes. Mais le simple fait qu'une VF aussi médiocre existe a poussé Netflix à commander un réenregistrement en bonne et due forme, quoi. Donc non, le public VF n'est pas inattentif, loin de là. Pareil, il y a eu des rappels de DVD parce que l'éditeur avait mis, sans faire exprès, la version québécoise dans le disque. Donc, et puis pareil, TF1 qui diffuse de temps en temps des versions québécoises. Mécontentement, message d'excuses sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est une erreur de croire que le public peut bouffer n'importe quoi. Et la preuve, c'est ce que tu me disais sur le documentaire que tu avais vu il n'y a pas très longtemps sur Jeff Buckley, c'est que les mauvais sous-titres, ça se voit, ça sort du film. Et puis, ça peut tout simplement, à terme, faire se dire aux spectateurs, j'arrête de regarder des films sur cette plateforme, parce que les sous-titres sont toujours nuls à chier, quoi.
C'était pas dans une plateforme, c'était dans un cinéma.
C'est encore pire, encore pire.
Mais pour HBO. Du coup, on est passé en moins de 4 ans à une forte demande professionnelle, à une paupérisation violente du secteur. Ça s'est vraiment senti comme ça ?
Ça dépend de quel morceau du secteur, on va dire. J'ai l'impression que ça n'a pas tant impacté que ça les comédiens. parce qu'il y a encore une grosse réticence à doubler par IA, réticence qui est fondée puisque les quelques studios qui ont tenté l'expérience se sont pris un backlash en ligne. Et ça, c'est un peu le truc qui me donne de l'espoir. Moi, je suis un éternel optimiste. Et c'est vrai que je vois le public, on va dire, et même je vois des gens autour de moi utiliser ChatGPT pour demander quel temps il va faire, pour demander d'écrire une lettre, un CV, etc. ou pour lui demander de décrire l'odeur d'un paix. Mais par contre, c'est inenvisageable pour ce même public qui pourtant utilise ChatGPT au quotidien. C'est inenvisageable que l'intelligence artificielle générative prenne cette place dans la sphère artistique et culturelle. Mmh. C'est-à-dire, demander à ChatGPT des petits trucs futiles, demander à Alexa de changer la couleur de la lumière, oui. Avoir un doublage fait par IA, non. Et il y a eu un sondage de l'IFOP il n'y a pas très longtemps, ou de l'INSEE, je ne sais plus, qui a été commandé par justement l'association Les Voix. Je crois qu'on était sur plus de 80% du public qui disait qu'il boycotterait un film si... sa VF était réalisée en IA.
Au grand désespoir, bien évidemment, de nos amis de Nanarland. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Hugo Amisé, alias Mr. Fox, critique sur les doublages audiovisuels sur plein de supports, dont vous pouvez le retrouver, entre autres, sur YouTube.
C'est moi.
Il y a eu cette histoire dont on a parlé des deux films argentins arrivés sur Amazon Prime, doublés par les synthèses vocales assez primitives. Amazon s'en était excusé et défaussé sur le distributeur. Il y a aussi Titra Film qui se fait aligner sur une audio description très raciste du film Soum Soum, la nuit des astres, du réalisateur Mahamat Saleh Haroun qui sort cette année, en 2026. Est-ce que vraiment il y a des opérateurs qui sont peu scrupuleux, peu consciencieux, qui n'en ont strictement rien à faire?
Ah bah, il y en a toujours eu, c'est-à-dire que c'est l'IA aujourd'hui, mais il y a 20 ans, c'était la Belgique. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, même il y a 30 ans, au moment de la grève de 94, il y a eu des gens qui sont allés travailler en Belgique, il y a des studios qui sont allés chercher des acteurs belges, ces comédiens-là qui à l'époque n'avaient pas de convention collective vis-à-vis du doublage, on les a fait travailler comme des forçats. À une époque, il y avait même des distributeurs qui faisaient travailler les comédiens, ce qu'on appelait au forfait, ce qui était parfaitement illégal. Et puis, une fois que les Belges se sont syndiqués et ont augmenté leurs tarifs, eh ben, on est allé chercher au Luxembourg. Et puis après le Luxembourg, c'était le Maghreb. Comment dire, il y aura toujours des clients qui vont chercher l'économie à tout prix. Pas sur tous les produits. C'est-à-dire que s'il y a un Jim Carrey, on n'ira pas chercher quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Curtil. Parfois même, c'est au point de prendre Emmanuel Curtil pour Jim Carrey et tout le reste du casting aller chercher en Belgique.
C'est pas
cet exemple précis, Jim Carrey, en l'occurrence, ça n'est pas arrivé, mais ça arrive sur certains films, qu'on aille chercher la voix la plus connue en France et puis tout le reste, on le double ailleurs. Donc, la recherche de l'économie et de la maximisation du profit, elle a toujours existé parce qu'on vit dans une société capitaliste. Et zut, j'ai parlé politique, c'est pas ça normalement, bref, en tout cas, il y a toujours eu une volonté d'économiser et de réduire les coûts. Aujourd'hui, c'est l'IA. Moi, j'ai l'impression, quand je lis les actualités, que c'est une bulle qui va peut-être pas tarder à péter. Aussi, je lis pas mal d'articles de gens qui disent que quand on aime le travail bien fait, bah, ça coûte plus de temps et plus d'argent de faire appel à une IA, parce que derrière, il faut un humain pour corriger les conneries. Donc, se pose toujours la question du travail bien fait, en fait. À quel point tu veux une VF ou un sous-titrage de qualité et à quel point tu t'en fous. Et je pense qu'il y a des productions, comme on le disait tout à l'heure avec Amazon, il y a des productions de catalogue qui sont là juste pour remplir le catalogue, pour dire « Ah, aujourd'hui, il y a 300 films qui arrivent sur Amazon Prime et il y en a 10 qu'on connaît ». Et 290 qui sont des vieux trucs pourris qui sont jamais sortis en DVD, et ben ces trucs-là, effectivement, tu leur files un doublage text-to-speech. Et puis si par miracle, par mégarde, et ben dans le lot, il y a un film qui est une pépite méconnue qui n'a pas attiré le regard du public à l'époque, mais qui est un chef-d'œuvre, et ben tu te retrouves avec un chef-d'œuvre avec une VF de merde. Mais Après, c'est pas qu'une question de maximisation du profit, puisque il y a aussi des VF qui coûtent cher et qui sont nuls à chier. Mais ça, c'est un autre débat et peut-être une de tes futures questions. Donc, je ne vais pas trop vite.
Ne spoilons pas trop vite. Ouais. J'ai un peu l'impression que, comme pour les audits de cabinets spécialisés ou le code informatique, les gens se défaussent sur l'intelligence artificielle pour ne plus être responsable, et dans le cas du doublage, pour justifier toute malfaçon, même si elle est économique, humaine et quoi que ce soit derrière.
J'ai pas observé ça pour l'instant. J'ai observé effectivement.
Ah mince, plutôt... j'ai encore spoilé alors.
Pour l'instant, j'ai pas observé ça. J'ai observé surtout des entreprises qui sont très fières de dire ah, on fait nos trucs avec IA, sauf quand ils se font rattraper par le col. Et typiquement, c'était le cas de Eleven Labs qui l'année dernière a doublé une bande-annonce de film avec Sylvester Stallone en utilisant une IA qui a imité la voix de Alain Dorval, qui est la voix de Sylvester Stallone et qui est décédé il y a 2 ans, me semble-t-il, maintenant. Mm-hmm. Et ils étaient tout fiers, ils disaient « Ah, c'est incroyable, maintenant on peut ressusciter Alain Dorval ». Et tout le monde est arrivé en disant « Bah non, on veut pas ça, vous êtes des connards, vous avez aucun respect pour les morts, on va vous péter la gueule si on vous croise dans la rue ». Et là, Eleven Labs, ils ont retiré la bande-annonce, ils ont fait « Non, nous respectons l'éthique, la morale, et il ne nous viendrait jamais à l'idée de faire ça ». Et toi, t'es en mode « Mais t'es sérieux ? T'es sérieux ? Genre, tu crois qu'on t'a pas vu ? Tout le monde t'a vu ?»
Comme dirait Alain Dorval. Allô, qui va là, je te prie.
Du coup, non, j'ai pas l'impression pour l'instant que les studios se défaussent sur l'IA. Mm. J'ai l'impression que, au contraire, si jamais l'IA va faire un truc de merde, ils vont dire non, mais c'est parce qu'il y a encore un humain dans la boucle.
Pas mal. Tu devrais être scénariste. Tu as parlé des secrets de la VF du youtubeur MrBeast, où l'on est passé du sous-titrage automatisé au studio de doublage avec acteurs, donc vraiment d'énormes moyens. Après tout, il brasse. Y a-t-il encore un intérêt pour un youtubeur qui pèse d'avoir un doublage humain derrière ?
Oui, je pense. Et il suffit de regarder les doublages automatisés proposés par YouTube pour se rendre compte que c'est pas du tout au point. Vraiment. Il y a aussi, en fait, MrBeast, c'est précisément une belle illustration de pourquoi il faut des doublages humains. Parce que souvent dans les vidéos de MrBeast, tout le monde parle en même temps. Et l'IA, telle qu'elle est conçue, et ça ne change pas même avec le temps, l'IA telle qu'elle est conçue, elle ne peut pas générer 2 personnages qui parlent en même temps, en fait. Elle comprend un des dialogues, elle comprend le deuxième, mais à partir du moment où ça se chevauche, eh ben, l'IA, elle est complètement perdue et elle va faire qu'un des personnages, ou alors elle va tout se mélanger, etc. Et des vidéos fit and fun où tout le monde parle en même temps, où il y a toujours plein de choses qui se passent à l'écran, c'est impossible à doubler de manière automatique. Alors, il y a des podcasts, des vidéos de news, etc., où ça le fait à peu près parce que la VO est aussi neurasthénique qu'un robot Amazon. À tel point que des fois, on se dit la VO est aussi générée par IA. Oui, j'imagine que pour un certain nombre de produits, c'est pas la peine de se casser la tête. Mais encore une fois, on en revient à ce truc de VF de qualité. Si on veut une VF de qualité, il va falloir abandonner l'IA pour faire appel à une équipe humaine. Et la question aussi à se poser, c'est quel est l'intérêt ? Parce que MrBeast, c'est un ricain, un youtubeur qui est très apprécié, qui fait des vidéos très, très, très ambitieuses. Donc, ça peut intéresser le public du monde entier. Mais un youtubeur plus modeste, qui parle de sujets de niche, etc., le doublage n'a pas d'intérêt. J'avais discuté en live avec un youtubeur tech, je sais pas si il m'autoriserait à dire son nom, donc dans le doute, je vais pas le dire, mais qui a développé sa propre IA pour doubler par IA ses vidéos en français. Et moi, je lui disais, mais à quoi ça sert ? Est-ce que vraiment ça te ramène des spectateurs anglais, parce que c'est un youtubeur français qui doublait ses vidéos en anglais. Est-ce que ça te ramène vraiment des spectateurs anglophones ou même tout simplement des spectateurs allophones ? Et il m'a dit, bah non, les niveaux des stats, ça, c'est quasiment nul. Et moi, je disais, mais du coup, c'est quoi l'intérêt ? Alors, lui, c'est un cas particulier, il a développé sa propre IA pour faire ça, bon, admettons. Mais nous autres créateurs francophones, on accepte par défaut, parce qu'il faut faire une opt-out, il faut demander à ce que YouTube ne le fasse pas, mais on accepte par défaut des doublages que personne ne va regarder, Et de fait, on autorise YouTube à se servir du son de nos vidéos pour enrichir sa propre base de données gratuitement. Donc ça pose un vrai problème pour moi, éthique, morale et même de manière générale financier, parce que pour un public qui n'existe pas, on se retrouve à filer gratos notre travail à Google et à ses bases de données d'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est un pas en arrière qu'il faut que le plus de créateurs possible fassent, quitte à faire appel, s'ils ont vraiment envie de tenter l'expérience, et je comprends qu'on a envie de la tenter, quitte à faire appel à une équipe humaine pour doubler leurs vidéos.
D'accord, j'ai cru que le YouTuber en question, c'était le docteur Laurent Alexandre, mais tu m'as dit qu'il avait codé sa propre IA, donc c'est pas lui.
Non.
On voit que YouTube force la traduction des titres de vidéos, le doublage automatisé des vidéos, c'est ultra pénible pour des gens qui, comme moi, comprennent et veulent progresser dans une langue étrangère, fût-ce le français, à tel point que je dois cumuler 2 plugins dans Firefox pour le retirer. Quand on essaie une box télé d'un opérateur FAI, la VOSTF est souvent le parent pauvre en télé, c'est-à-dire que la source existe côté chaîne de télé, mais n'est pas proposée par la box, ou alors saute dès qu'on fait la moindre manip. Mais franchement, on est si peu que ça à préférer la VOST en France?
Alors, ça dépend. Je vais te poser cette question, t'es pas obligé de répondre. Ouais. Est-ce que tu habites en région parisienne?
Non, je suis à Toulouse, putain de con. Et okay. Chez nous, ici, on commande les bières en allemand, au nord d'Airbus.
Bon, alors, dans ce cas-là, je n'ai rien dit. Mais non, parce que le public parisien, il y a un vrai, il y a une vraie bulle culturelle parisienne. J'avais répondu à une journaliste de Combini au moment où il y avait eu un petit buzz sur la VF du film Super Mario Bros. Et elle m'avait demandé, en toute bienveillance et en toute innocence, vraiment, elle pensait pas à mal. Elle m'a demandé, mais il y a vraiment encore des gens qui regardent la VF? Oui, la majorité des gens. Et elle est tombée des nues en disant « Ah ouais, j'imaginais pas. » Je disais « Mais vous vivez à Paris. C'est normal, vous vivez à Paris, vous vivez dans la sphère culturelle Combini, etc. Vous ne voyez que des films en VO. » Sur la question de la disponibilité de la VO, encore une fois, moi je rappelle qu'on revient de loin. On revient d'une époque où la VO n'était tout simplement pas accessible. Maintenant, pour ce qui est d'une plateforme déjà comme YouTube, il faut savoir que même les gens qui ne parlent pas anglais, ça leur casse les pieds les traductions de titres. Et les traductions, les doublages activés automatiquement. Parce que même si on ne parle pas un mot d'anglais ou d'espagnol ou quoi que ce soit, il suffit d'avoir une oreille fonctionnelle, même pas besoin des deux, hein, juste une suffit, pour entendre que le doublage pue la merde. Et en fait, les gens préféreront une VO où on ne comprend rien qu'une VF avec une voix de synthèse neurasthénique. Et ça, vraiment, ça s'observe, et il y a beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, les gens sont en mode « Non, mais désactive-moi ça, bordel !» Donc, c'est quelque chose qui n'est apprécié par personne. Vis-à-vis des télévisions, ça, j'ai pas la réponse. Faudrait poser la question directement aux chaînes.
Ah mais non, je te garantis. Cela dit, je te garantis, il y a des chaînes qui avaient la piste.
Ah non,
VF,
je te crois sur le fait que c'est le parent pauvre. La question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est le pourquoi. Il convient de donner cette information parce que je m'en suis rappelé il y a pas très longtemps. Il y avait une femme sur Twitter qui s'était exprimée en disant c'est terrible, je viens de voir tel film à la télé. Et la VF est une catastrophe, je ne comprends pas pourquoi on continue d'infliger ça aux spectateurs. Alors que sur ce film-là précis, la VO était accessible. Eh bien, me croiras-tu si je te dis que cette femme qui a tweeté ça était membre du CSA?
Arcom maintenant, je suis pas surpris.
À l'époque, c'était CSA.
Ouais, mais je suis pas surpris. Pour te donner un exemple, je suis abonné Free. TMC n'a de piste VO et les sous-titres fonctionnels sur la Freebox Pop que depuis moins d'un an. Alors que le signal était présent depuis le lancement de la TNT. Voilà.
Ouais, là je pense qu'on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les patrons de TF1 qui surmixent les VF pour la ménagère de moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a cette idée globale que j'observe souvent chez les gens qui préfèrent la VO, qui est le public est con. Le public est con, le public ne regarde que de la VF, le public s'en tape, le public il veut regarder un film sans se prendre la tête et sans lire, en se grattant les couilles dans son canapé, avec son Marcel taché de bière.
Attention, il va falloir que tu fasses l'analogie aussi pour les personnes du membre féminin, hein, sinon on va se prendre du courrier.
Ah bah, en se grattant les nibards, en Marcel taché de glace du dernier pot de la dernière rupture. Voilà, si tu veux une image caricaturale, on est aussi là-dessus. En fait... Il y a une image d'Épinal qu'on convoque quand on parle des spectateurs de télé, quand on parle des gens qui aiment la VF, et quand on parle aussi, hein, il faut le dire, des gens qui aiment la VO. On les imagine le petit doigt en l'air avec une coupe de champagne à la main et en train d'écouter du jazz, en faisant des accents circonflexes sur tous les A de leurs phrases. Voilà, c'est des images d'Épinal qui ne correspondent ouais. pas à une réalité sociale. Et si on se pose la question de pourquoi la télé ne fait pas des efforts vis-à-vis de la VF, je pense que c'est parce que une partie des dirigeants de ces chaînes de télé se disent « le public est con, ne prenons pas cette peine
». Tu parlais des voix surmixées et tout ça. Je tiens à signaler d'ailleurs que depuis un mois, deux mois, ça commence à arriver sur Netflix. C'était déjà arrivé sur Amazon. Certaines pistes sont principalement les versions originales anglaises de leur production. Et ce qu'ils ont dans le catalogue qu'ils le proposent, ils le proposent avec une version voice over mix ou voice boost, ce qui permet justement de faire le ménage, de passer l'aspirateur, tout en suivant la fin de Stranger Things.
Sachant que ça, il l'intègre aussi, c'est pour ça que je disais qu'on en a reparlé récemment, il l'intègre aussi dans l'écriture de leur série. C'est quelque chose qui a été mis en lumière il n'y a pas très longtemps. Ils répètent souvent les noms des personnages, ils répètent assez régulièrement qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de l'intrigue, à tel point que les spectateurs qui sont 100% concentrés sur la série sont en mode « oui, bah, ça va, on a compris, on va savoir, t'arrêtes pas de le répéter », mais c'est un choix conscient de Netflix, et c'est quelque chose qui est demandé à leurs auteurs et à leurs scénaristes, de tout le temps répéter ce qui est en train de se passer pour que la personne qui est en train de scroller sur TikTok puisse continuer de suivre sa série. Et c'est le même genre d'image d'Épinal, parce qu'on imagine forcément qu'un adolescent, il passe son temps sur TikTok et il a même plus de cerveau, mais on nous faisait déjà le même reproche il y a 10 ans quand il y avait Pokémon Go, quand il y a eu la mode Pokémon Go, et il y a 20 ans quand il y avait la télé, les ordinateurs, et il y a 30 ans quand il y avait Dallas, enfin voilà, on a toujours dépeint les jeunes adolescents comme des abrutis sans cervelle et incapables de se concentrer plus de 5 minutes, eh ben, y en a qui sont ingénieurs aujourd'hui. Voilà, et il y en a qui seront ingénieurs demain. Donc, c'est absurde de convoquer toujours cette image d'Épinal qui n'est jamais vraie, quoi.
On parle de doublage, mais dans le cas du dessin animé, il y a un métier qui est particulier qui s'appelle la création de voix. C'est-à-dire quand, en fait, ben, on crée la pistes sont originales. Est-ce que la création de voix a déjà été impactée par l'IA et dans quel sens ?
Alors, ça arrive. Et il y a plusieurs comédiens et comédiennes qui s'en sont plaints en discussion à la radio, à la télé, etc. C'est que assez souvent, pour les créations de voix, assez régulièrement en tout cas, les comédiens doivent créer à partir d'une voix témoin. Parfois, elle est enregistrée par un comédien. Parfois, c'est les animateurs qui l'enregistrent, qui est une sorte de placeholder pour pouvoir animer, commencer à animer, sans forcément être hyper précis sur les lèvres, mais au moins pour avoir une idée du timing de l'animation, du plan, etc.
Ou de la durée de l'épisode, oui.
Voilà, ou de la durée de l'épisode, etc. Donc, parfois, les comédiens enregistrent avec une voix témoin en fond qui ne leur sert pas de base de jeu, contrairement à un doublage, mais qui leur sert simplement de repère en termes de rythme, quoi. Et j'ai plusieurs comédiens et comédiennes qui m'ont appris que, de plus en plus, les animateurs demandaient à des IA de générer des voix témoins. Et ça, c'est gênant quand ta base, c'est l'outil qui a envie de piquer ton taf. Eh ben, c'est pas très valorisant. Et puis, en plus, tu passes derrière une IA. On peut te demander, surtout les animateurs, s'ils sont habitués à cette voix témoin, on peut te demander de l'imiter, et imiter une voix IA, c'est très... En plus d'être professionnellement inintéressant, artistiquement honteux, c'est assez humiliant, je pense, pour certains comédiens et certaines comédiennes. Donc, à ce niveau-là, il y a cette partie-là qui a été impactée. Et puis, ça arrive aussi qu'on se dise... Bon, pour les figurants, pour les bruits de fond, pour la foule, on va pas s'emmerder à appeler des comédiens, on va juste générer un bruit de foule par IA, et ça aussi, c'est catastrophique. Mais ça aussi, ils se font reprendre. Ça aussi, on se fait rattraper par le col, et je pense, c'est pas tout à fait de la création de voix, mais je pense que c'est une bonne illustration malgré tout, à une vidéo de Joueur du Grenier, c'est format Papy Grenier, où il a des enfants qui lui posent des questions. Il a fait générer un des enfants par une voix en IA, en se disant, bon, bah, il y a trois répliques, ça va le faire. Et on l'a rattrapé par le col en disant, bah, non, c'est pas possible. C'est pas acceptable. T'es créateur, tu dois comprendre quel est le problème moral à faire ça. Donc, lui, après, il s'explique sur d'autres contraintes qu'il rencontre. Et ça génère un débat. Et maintenant, je pense qu'il ne le fera plus, ce choix-là. Mais c'est quand même tout simplement une solution de facilité quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Et ça, c'est globalement, je pense, un portrait qu'on peut dresser de l'IA générative. Moi-même, j'en suis pas très fier, mais maintenant qu'elles sont là, elles sont là. Au début de Midjourney, ça correspondait au moment où je mettais en ligne la nouvelle version de mon site web. Et il y avait des pages de mon site web où j'avais besoin qu'il y ait une image placeholder pour illustrer la page. Alors, il y a quelques années, je serais allé sur Google Images et j'aurais tout simplement pris une image à la con. Mais le truc, c'est que comme on est de plus en plus nombreux à utiliser les mêmes images à la con, ben ça m'embêtait. Et là, il y avait Midjourney que j'étais en train de découvrir qui me proposait de générer des images. J'ai laissé à chaque fois la première passe parce que je m'en fichais un peu. Et ces images-là sont toujours sur mon site et je les laisse parce que je me dis, bon, ben, elles sont générées. Le mal est fait. J'avais la flemme. J'avais pas envie d'avoir les éternels stocks d'images qu'on voit partout. Et donc, je suis allé à cette solution qui, à ce moment-là, me semblait être la solution de facilité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « on va faire ça parce que c'est plus facile ». Là où c'est gênant, c'est quand t'es une grosse boîte, que t'as parfaitement les moyens de faire appel à des artistes et que tu te dis « bah non ». Et même sans faire appel à des artistes, je veux dire, t'es un petit studio d'animation et t'as besoin de faire des foules, t'appelles tes animateurs. Tu t'appelles tes animateurs, t'appelles des badauds qui passent près de ton studio, t'appelles des copains de copains de copains. Pour une foule, ça se fait très bien. Personne ne va t'en vouloir. Et il vaudra toujours mieux un badaud qui sait pas jouer qu'une IA, d'un point de vue ne serait-ce qu'éthique et moral, quoi.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons de l'impact de l'IA dans la production audiovisuelle avec Hugo Amisé, alias Mr. Fox, critique sur les doublages audiovisuels à ne surtout pas louper. Notamment, on met quelques liens justement vers des épisodes qui nous ont beaucoup fait rire, je pense notamment au doublage allemand de la tour Montparnasse infernale. Le doublage par IA est-il acceptable dans les langues ayant un faible bassin de population ou un marché commercial qui ne permettrait pas d'amortir financièrement un travail humain professionnel?
Ça, c'est la grande question. C'est une question qui est très générale, qui rejoint d'autres questions liées à l'IA. Très sincèrement, je peux pas répondre.
Outre le fait de générer de la voix, il y a aussi maintenant, grâce à l'IA, la possibilité de retoucher les images et notamment de refaire un lip-sync, modifier les lèvres des personnes à l'image pour qu'ils semblent parler la langue. Point de vue accessibilité, c'est formidable, ce que m'ont dit certaines personnes, comme le sous-titrage automatique. Mais en quoi c'est gênant? Qu'est-ce que cela impacte derrière?
Ça, c'est, pour moi, c'est vraiment scandaleux. Et je sais que quand je discute de ça avec des anti-VF, ils ont un petit sourire narquois en mode, ah bah, tu vois, hein, c'est bien le pro-VF dans toutes ses contradictions. Je suis très intelligent. Parce que moi, je défends l'idée, contrairement à ce que disent certains anti-VF, qu'un doublage, ça ne déforme pas un film. Un doublage, c'est presque une annotation d'un film, une légende. Certains utilisent l'analogie foireuse de la VF, c'est comme si on repeignait par-dessus la Joconde. Je ne suis pas d'accord. Dans la mesure où la Joconde reste accessible telle qu'elle est, je dirais que c'est au mieux une légende en dessous du tableau, au pire un post-it qu'il est parfaitement possible d'enlever, dans la mesure où de toute manière la Joconde est protégée sous vitre, etc. Même celle au Louvre, on croit que c'est un faux. C'est pas gênant de mettre un petit post-it sur la Joconde, dans la mesure où on peut l'enlever à n'importe quel moment et que ça n'abîme pas l'œuvre.
Alors, ceci dit, au Louvre, on n'est pas sûr qu'elle soit protégée.
Mais bref, là, on parle réellement de modifier l'œuvre. Et Moi, ça me pose un problème parce que malgré que je sois un grand amateur de VF, qui regarde aussi beaucoup de VO, hein, l'un n'empêche pas l'autre, malgré que je sois un grand amateur de VF, je ne veux pas qu'on modifie un film pour des raisons de confort. C'est-à-dire que la VF a déjà fait énormément d'efforts, déploie énormément de moyens et brave énormément de difficultés pour aller au-delà de ce problème de lip-sync qui n'en est même pas un puisque on est quand même très fort en synchronisme en France et globalement en francophonie. Là, on parle vraiment de modifier l'œuvre. Pour moi, le problème, il est éthique, il est moral. J'ai toujours défendu le doublage justement parce que on ne modifie rien. Simplement, c'est une autre manière d'avoir accès au film. Là, si on modifie véritablement le lip-sync, déjà, je pose la question de la technique, comment c'est applicable, parce qu'une plateforme, généralement, ça n'a qu'un seul master vidéo. Donc, à moins d'avoir un outil IA qui est intégré directement dans le site web, dans la plateforme du catalogue VOD, et dans ce cas-là, il faudra des dizaines, si ce n'est des vingtaines d'années pour que ce soit rentable. Même chose pour les DVD Blu-ray. Un DVD, un Blu-ray, ça n'a qu'un seul, une seule piste vidéo. Donc, à moins de quelques petits trucs et les branchless, enfin, les branches seamless, je sais plus c'est quoi le terme précis ouais, c'est Disney, mais bref.
En gros, voilà, c'est quand vous regardez un Pixar comme par exemple.
Voilà.
Mince, ah, j'ai oublié les indestructibles. La fille refuse de manger
ça c'est vice versa.
C'est vice versa, voilà, où il y a une question où en fait dans la piste japonaise, les brocolis, les enfants adorent ça, donc on a mis un autre légume vert que l'enfant n'est pas supposé aimer, et à la volée par le jeu des playlists en fonction de la piste son que vous utilisez, eh ben on envoie sur une autre séquence pour changer l'image, le contexte de la scène, et de même que les films quand vous avez le texte qui est dans la scène, dans les journaux et tout le reste.
C'est assez vieux comme technologie, parce que même dans les DVD de Toy Story,
oui.
Le film a été rendu avec différents textes à l'écran, et quand Woody lit la boîte de Buzz l'éclair, le texte est affiché en français si la piste choisie c'est la VF, et le texte est affiché en anglais si la piste audio choisie est la VO, donc c'est quand même très étudié. Mais on peut pas aller jusqu'à... je veux dire, si on doit modifier toutes les lèvres de tous les personnages qui parlent, c'est carrément une deuxième piste vidéo qu'il faut mettre sur le disque, et ça se fera au détriment de la qualité de compression, mais ça c'est aussi, on rentre encore une fois vraiment dans la technique un peu en dur. Je vois pas non plus comment c'est applicable à la télévision, etc. Au-delà de la difficulté technique qui me paraît infranchissable, à part éventuellement pour quelques diffusions cinéma où on peut avoir plusieurs DCP, mais au-delà de ça. Et au-delà, évidemment, parce qu'on voit des petites démos techniques impressionnantes là-dessus, mais c'est des trucs qui durent une minute, deux minutes, cinq minutes. Quels sont les coûts pour réaliser un tel artifice de qualité sur un film de deux heures ? C'est quoi les coûts ? C'est quoi le temps ? C'est quoi qu'est-ce que ça convoque comme énergie ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup posé la question dans cette émission de l'impact écologique de l'intelligence artificielle, mais parce que c'est aussi un autre débat.
Ouais.
Pour moi, ça me pose des problèmes moraux, des problèmes éthiques, et je sais, encore une fois, je sais que ça peut sembler bizarre pour quelqu'un qui défend le doublage, qui est souvent décrit comme une déformation de l'œuvre d'origine, mais pour moi, retoucher l'image telle qu'elle a été pensée par le réalisateur, par toute l'équipe de production du film, pour moi, c'est une limite qu'il ne faut pas franchir.
Mmh. On voit maintenant que des comédiens demandent par contrat à ce qu'ils ne soient jamais clonés, ni physiquement, ni oralement. D'autres l'ont déjà accepté, ont vendu des droits, vendent en fait leur accentuation, leur intonation en licence. Le problème du clonage des comédiens et de leur voix a été l'un des points forts de la grève des acteurs à Hollywood en 2023. Quel est actuellement le consensus ?
Je sais pas s'il y a un consensus. En fait, le consensus, il est difficile à avoir tant il y a un clivage selon les comédiens. C'est-à-dire que oui, il y a des gigastars du doublage qui ne veulent pas que leur voix soit clonée. Mais il y a aussi des jeunes comédiens qui démarrent. Et ça, c'est une vraie question à se poser. C'est-à-dire, le monde du doublage de manière générale, avant comme après le doublage, c'est un milieu hyper saturé. C'est un milieu où on ne laisse pas rentrer n'importe qui, c'est un milieu qui est très surveillé, c'est un milieu qui est rongé plus que d'autres milieux artistiques par le népotisme. Et beaucoup de jeunes comédiens témoignent avoir fait une formation, avoir une légitimité de comédien, d'avoir fait des ateliers et des stages pour apprendre la technique du doublage et la maîtriser parfaitement, et pourtant être incapable de décrocher des rôles, parce que c'est un terrain de chasse très gardé. Ces gens-là, ces jeunes comédiens-là, si on a une boîte de doublage sans scrupules, une boîte d'IA sans scrupules qui dit « bah écoutez, on vous propose 2000 balles, 5000 balles, je sais pas, pour que vous enregistriez tout ce qu'il faut pour que votre voix puisse être dans notre catalogue », eh ben, quand tu es un jeune comédien ou une jeune comédienne qui a passé 60 castings et qui n'en a eu aucun, eh ben, je peux comprendre que ça soit tentant. Je peux comprendre que ça soit tentant, et c'est pour ça que je peux comprendre aussi des gens qui se disent « bon bah, j'accepte ». Maintenant, c'est vrai que c'est globalement, ça tire le métier vers le bas, et c'est, on en revient à cette idée de solidarité dans le métier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une cohésion de groupe pour pouvoir faire un seul front face à l'intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose, on va dire, dans les grands noms du doublage, dans le visage public du doublage, c'est quelque chose qui est déjà en place. C'est-à-dire qu'il y a des vrais mouvements de boycott, il y a énormément de comédiens qui prennent la parole, il y a le mouvement « Touche pas à ma VF », il y a aussi des actions judiciaires. C'est Françoise Cadol qui a réussi à obtenir de l'éditeur de la compilation Tomb Raider qui avait généré à partir de ses rushs vocaux des petites retakes pour les menus du jeu. Eh ben, elle a réussi à obtenir que l'éditeur, dans une mise à jour et dans un patch, retire toutes ces répliques-là.
Il faut expliquer, c'est la comédienne qui donne sa voix française à Lara Croft dans les jeux.
Oui,
et c'était pour leur remasterisation du premier jeu. Il y avait des scènes supplémentaires, effectivement, et des entrées de menu. Donc tu me dis qu'ils ont au moins supprimé pour le menu. Donc il y a eu un accord.
Non, globalement, tout ce qui a été généré par IA à partir de la voix de Françoise Cadol a été supprimé lors de la dernière mise à jour du jeu.
Et donc ils ont dû refaire appel à elle pour refaire les voix manquantes.
Alors ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont laissé de la VO, j'en sais rien. Faudrait vérifier. Maintenant, il y a des actions collectives qui sont en train de se mettre en place, et notamment là, à l'heure où on enregistre, il y a 8 comédiens qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps dans une action collective contre 2 sites de génération de voix par IA qui les intégraient dans leur base de données. Notamment, effectivement, Brigitte Lecordier qui est vraiment en première ligne là-dessus.
Faut se méfier, c'est quelqu'un qui a tendance à monter très vite en énergie. Elle est capable de briser une planète en deux. C'est la voix de Son Goku, si vous ne le savez pas.
Et ils ont lancé une action collective contre 2 sites web. Et il y en a un qui a d'ores et déjà retiré leur voix de leur catalogue. C'est un bon début, mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est systématiser le retrait. En fait, actuellement, la plupart des sites de génération de voix par IA, y compris ceux avec une licence payante à destination des professionnels, ils fonctionnent avec une mécanique de opt-out. C'est-à-dire que on met ta voix dans la base de données, sauf si tu demandes à ne pas y être. Alors que clairement, on marche sur la tête, ça devrait être du opt-in, c'est-à-dire on ne met pas votre voix dans notre base de données à moins que vous acceptiez et que vous signiez un contrat avec nos conditions. Mais ce système d'opt-out, il est absurde, il fait dresser les cheveux sur la tête des comédiens, mais aussi de la SACEM, mais aussi de
bah, outre que c'est illégal en France.
Secteur, c'est illégal.
Outre que c'est illégal en France, c'est l'impersonnification et donc c'est l'usurpation d'identité. Je ne suis même pas sûr que ça soit envisageable aux États-Unis tel que, quoi.
La grande force qu'on a en Europe à ce sujet-là, et pour le coup, c'est une spécificité européenne, en France, en Europe, la voix est considérée comme une donnée biométrique. Et donc, à ce titre, elle est protégée par le RGPD, qui est donc le règlement des données personnelles sur Internet. Et cette carte, elle est déjà dans la main des comédiens, puisque si jamais il y a un procès pour utilisation illégale de données biométriques, les amendes, elles sont considérables. Mais quand je dis considérables,
on a fait une émission là-dessus.
Ah oui, d'accord.
C'est entre 1 et 4%, il y a 3 paliers, il y a 1%, 2% et 4%. 4%, c'est vraiment 1%, l'intention maligne.
1% du chiffre d'affaires de Viacom, ce serait déjà pas mal.
Ah, on renflouerait bien les comptes publics. On a parlé dans une précédente émission qu'OpenIA avait cloné sans autorisation la voix de Scarlett Johansson pour ressembler à sa performance dans le film Her. Ça en est où sur cette affaire? Est-ce que l'on sait s'il y a eu des lettres d'avocat, un accord confidentiel, ou ça va se régler devant des bavards en costume?
Je ne sais pas.
Ok, je sais que l'exercice que je vais te demander pour conclure n'est pas évident, mais comment vois-tu l'avenir de l'industrie?
Moi, je suis un éternel optimiste. C'est un truc qu'on me disait déjà à l'époque où j'avais fait ma vidéo Amazon en 2019 quand il y a eu ces deux films argentins. Moi, je disais, franchement, ça n'ira pas plus loin. Et le métier m'avait dit, tu te rends pas compte, mais ça progresse bien plus vite qu'on ne le pense. Et bientôt, ce sera des résultats bluffants. Quelques années plus tard, on continuait de me dire la même chose et moi j'étais en mode, oui, enfin, l'IA se reconnaît quand même encore et il y a un refus du public et les gens me disaient, oui, mais ça va pas durer, au bout d'un moment le public il va accepter et puis au bout d'un moment la perfection sera à peine audible. Bon, aujourd'hui on est en 2026, on spotte toujours les voix IA, de plus en plus difficilement, certes, mais on les spotte. Les comédiens... Je pense qu'il y a pas mal de studios de doublage et pas mal d'entreprises de manière générale qui font appel à l'IA, qui se rendent compte que bah, c'est de l'argent dépensé pour au final très peu de profit, puisqu'il faut toujours qu'un humain repasse derrière pour rattraper les conneries de l'IA. Il y a aussi des dérives avec des IA qui mènent à des erreurs graves. Là, je relayais tout à l'heure un article des erreurs en bloc opératoire, des erreurs chirurgicales qui coûtent la vie à des patients. Parce que les IA conseillent mal les médecins. Donc, moi, je pense qu'on est au bout de la bulle, IA. Je pense qu'elle ne va pas tarder à péter. Je pense qu'il y a un an, deux ans, les gens disaient bah, « ça va devenir la norme et c'est comme ci et c'est comme ça ». Moi, je me souviens qu'il y a deux ans, on me disait « dans deux ans, le métier est fini ». Et aujourd'hui, on est toujours là et on me dit « dans deux ans, le métier est fini ». Et en fait... Moi, j'ai l'impression que jamais on atteindra le niveau de perfection requis par le public. Et quand bien même on y arriverait, ça coûte trop d'énergie. C'est-à-dire que OpenAI, actuellement, ils sont en déficit de plusieurs milliards. Microsoft, récemment, s'est exprimé en disant « Est-ce que vous pourriez utiliser notre modèle d'IA, s'il vous plaît, parce que sinon, on n'est pas rentable ?»
OpenAI, c'est pas en milliards, c'est en billions. Trillions en américain.
Ah ouais, c'est un billion en trillions. Bah, effectivement...
C'est en milliers de milliards. Et voilà, alors, on enregistre,
mais voilà,
on enregistre le 13 février, mais depuis 10 jours, les cours des principales boîtes d'IA plongent en bourse. C'est assez impressionnant. Mmh. Ce n'est pas encore le crack, mais on n'est pas loin.
Effectivement, on n'est pas loin du crack, comme tu le disais. Et puis même, en fait, ça, c'est un truc que je disais déjà Il y a deux ans, il y a trois ans, à un colloque sur l'IA et le doublage. Et c'est quelque chose que je vérifie aujourd'hui. C'est que, au bout d'un moment, les licences d'utilisation d'intelligence artificielle vont coûter tellement cher. Les IA gratuites vont être tellement pénibles à perfectionner pour obtenir le résultat escompté que les boîtes de doublage vont se dire, bah, en fait, c'est plus rentable de faire appel à des humains. Et ça, c'est quelque chose que j'observe déjà là autour de moi, des gens qui se disent « mais je perds tellement de temps, d'énergie et d'argent à corriger encore et encore et encore la génération IA jusqu'à obtenir ce que je veux, franchement j'aurais meilleur compte de demander à un humain ». Je pense que cette menace IA, elle nous a fait très peur pendant un bon moment, mais que là, petit à petit, on s'approche de la fin, pas la fin dans tous les secteurs, hélas. Je crains que le monde de la traduction soit impacté à tout jamais, mais parce que, entre guillemets, il n'a pas attendu l'IA pour être impacté, c'est-à-dire les outils automatiques pas très perfectionnés, les Google Trad et les trucs comme ça, avaient déjà mis à mal un certain nombre de professionnels du milieu parce que bah, y a des gens qui sont vraiment sans scrupules et qui sont prêts à mettre n'importe quel niveau de qualité. Mais je pense que le vrai danger, là, on en voit le bout. Après, je suis conscient que c'est mon côté optimiste. Je suis conscient que c'est pas un pari qu'il faut prendre à la légère. Mais quand je vois effectivement le cours des actions des boîtes d'IA là actuellement, je me dis que bah, j'ai raison d'espérer. J'ai des raisons d'espérer en tout cas.
Mr. Fox, Hugo Amizé, merci beaucoup. On te retrouve sur YouTube, on te retrouve sur Twitch. Est-ce que tu as d'autres canaux à partager, puisqu'on donnera les liens de toute façon sur la page web de l'émission?
Alors, effectivement, j'ai une chaîne Twitch, YouTube. J'ai aussi un compte sur Blue Sky. N'allez pas me suivre sur Twitter, nouvellement X, parce que j'ai fermé mon compte. Je suis sur Instagram. Si ça vous arrive de traîner du côté de Lyon, j'organise tous les premiers vendredis du mois des soirées, des projections sur grand écran de vidéo YouTube, qui s'appelle les soirées YouTube, en présence des créateurs et des créatrices. C'est des soirées très détentes, très chill, donc je vous invite à venir y faire un tour si ça vous arrive de passer du côté de Lyon. Et puis sinon, bah, je travaille toujours sur des vidéos YouTube. Là, la prochaine devrait sortir, si tout va bien, début avril. Et sans vouloir faire le kiki prétentieux, je pense qu'elle va en surprendre plus d'un.
Voilà. Et franchement, j'ai hâte parce que elles sont toujours d'une qualité assez extraordinaire et vraiment très bien faites. Donc, sincères félicitations. Pour ceux qui nous rejoignent parce qu'ils ont vu qu'on parlait de Mr. Fox, je tiens à signaler que très prochainement dans CPU, peut-être même dès la semaine prochaine, on va diffuser une interview d'un réalisateur de publicité et de clips d'un niveau plutôt haut de gamme qui travaille dans le luxe et qui travaille sur des plateaux internationaux, qui est passé à l'IA. Donc on va prendre justement son point de vue en tant que créateur, pourquoi il a basculé là-dedans et qu'est-ce qu'il a vu, quelles sont les limites et ce que cela amène dans son métier. Merci.
De rien, un plaisir.